Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce débat des journées de l'économie sur le thème « Les indicateurs économiques dans une démocratie ». Je voudrais commencer par une petite histoire, celle d'un jury qui a convoqué une fois trois experts, trois regards sur le chiffre un peu différent. Et il commence en demandant au premier expert, un mathématicien, combien font 2 et 2 ? Le mathématicien répond 4. Le jury lui demande, vous êtes sûr ? Le mathématicien, un peu énervé, dit, ben oui, bien sûr, combien vous voulez que ça fasse ? Le jury pose ensuite la question à l'expert comptable. 2 plus 2, combien ça fait ? L'expert comptable réfléchit un peu, dit 4. Le jury lui demande, vous êtes sûr ? L'expert comptable réfléchit encore un peu et dit « Oui, enfin, 4, plus ou moins 10%. » Vient ensuite le tour du statisticien. 2 plus 2, combien ça fait ? Le statisticien se tait. « Combien ça fait ?» demande le jury de manière insistante. Le statisticien se tait toujours, puis se rapproche du jury, il chuchote « Combien vous voulez que ça fasse ?» Je ne retiendrai évidemment pas de cette histoire le fait que le statisticien n'est pas un être indépendant. Le statisticien est un être profondément indépendant, car comme le journaliste que je suis, le statisticien sait que la qualité de son travail dépend largement de l'indépendance avec laquelle il travaille. Et je retiendrai de cette histoire que la statistique n'est pas tout à fait la mathématique, même si elle s'en inspire beaucoup, elle n'est pas non plus la comptabilité, mais elle est une construction sociale. On regarde avec la statistique des grandes populations et on en ressort en partie ce qu'on y cherche. L'un des pionniers de la statistique a été Adolphe Quetelet. Quetelet était un médecin belge. Il était passionné par la taille des gens. Et donc, il avait repéré qu'on avait une courbe, il y avait très peu de gens très petits, très peu de gens très grands, et qu'on avait une moyenne. Quetelet était un obsédé des moyennes. Et donc, quand il a commencé à installer des indicateurs démographiques, c'était pour travailler sur les moyennes. Ce qu'il voulait montrer, c'était qu'il y avait des moyennes avec des gens avec une concentration très forte. Et les débuts de la statistique démographique en Belgique, qui a donné, qui a impulsé un peu ce qui s'est fait ensuite en Europe, c'était pour montrer les moyennes. Ensuite, eh bien, peut-être certains d'entre vous étaient ici auparavant à la session sur Keynes. Keynes a fait un balancement complet de l'analyse économique. Avant, on pensait équilibre, avec Keynes, on pense déséquilibre. Avant, on pensait micro, avec Keynes, on pense macro. Avec Keynes, on pense donc qu'il faut agir et que l'État doit agir. Et c'est après la guerre qu'on commence à dire que pour agir, il faut des indicateurs. Et on bâtit à ce moment-là toute une architecture statistique qui est encore assez largement celle que nous avons aujourd'hui, avec les comptes nationaux qui jouent un rôle absolument central, les comptes nationaux qui permettent de mesurer notamment la consommation, et donc la demande, la troisième révolution keynésienne, c'est le basculement de l'offre sur la demande. Avant-guerre, on connaissait, on avait des chiffres de production qui étaient déjà assez développés, y compris en matière agricole, en matière industrielle, mais la demande, la consommation, c'était des choses qui étaient inconnues en matière chiffrée. Et donc, après-guerre, on développe tout un appareillage statistique pour piloter l'économie, et avec tous les grands concepts keynésiens, et puis qu'on élargit avec un cadre extraordinairement cohérent qui est celui de la comptabilité nationale. Aujourd'hui, nous sommes 60 ans plus tard, et ces chiffres-là existent toujours, mais la demande de chiffres a énormément évolué, elle est devenue infiniment plus diverse, un peu infiniment plus variée, et donc on a un problème, des problèmes avec les chiffres. Il y a des attentes qui sont très différentes, il y a des chiffres qui sont fabriqués pour un usage et qui sont lus totalement autrement. Il y a un certain nombre de polémiques, on a eu sur le chômage, on a eu sur le pouvoir d'achat, on a eu sur le PIB, et il y en aura sur toute une série d'autres données, donc nous allons discuter de cela ce soir avec 5 intervenants. Nous allons discuter d'abord en termes généraux sur les indicateurs, pourquoi sont-ils importants dans la démocratie, comment les fait-on. Ensuite, nous allons mettre le focus sur 2 points. Premièrement, les chiffres du PIB, le produit intérieur brut, Et ces variations qui font la croissance et qui donnent lieu à l'infinie discussion. Un deuxième indicateur qui lui aussi est actuellement très débattu, puisqu'il s'agit du pouvoir d'achat. Et nous discuterons ensuite gouvernance, peut-être un peu chômage, et nous, évidemment, nous ouvrirons le débat à la salle. Donc, d'abord, en termes généraux, comment penser les indicateurs économiques dans une démocratie? On va commencer avec. Nous allons commencer par les producteurs de chiffres et puis remonter toute la chaîne. Donc, on va commencer avec Fabrice Langlard. Fabrice est chef du département des comptes nationaux de l'INSEE, donc, hein, cette division de l'INSEE qui calcule le PIB et ses variations. Et l'INSEE qui a une double particularité, hein, tout de même en France, par rapport à ce qui se fait à l'étranger. Premièrement, c'est un institut qui est très important, qui couvre un champ très large. Et puis une deuxième particularité qui explique certaines des difficultés qu'il y a parfois aujourd'hui, c'est que c'est un institut qui fait à la fois des chiffres et leur analyse. Nous parlerons de cela plus tard. Tout d'abord, Fabrice, comment voyez-vous cette question des indicateurs économiques dans la démocratie?
Merci. Et pour introduire cette discussion, en fait, il me semble utile. De réfléchir à la raison pour laquelle les indicateurs économiques sont importants. Et il me semble qu'il y a essentiellement deux raisons. La première, qui est un petit peu, enfin, pour adopter un langage d'économie, c'est important parce que dans la prise de décision des acteurs économiques, cette prise de décision, elle est prise en fonction d'une information économique qu'ils ont à leur disposition. Et donc, en ce sens, pour qu'ils prennent les meilleures décisions possibles, il faut leur fournir de l'information économique. Et cette information économique passe en particulier par la production de chiffres et de chiffres statistiques. Et puis plus généralement dans une démocratie, il me semble que pour adopter un langage commun, pour que tous les acteurs puissent dialoguer, les citoyens, autour de questions en particulier de politique économique et sociale, il faut nécessairement un langage commun, donc il faut des concepts, mais aussi des chiffres. Et si deux personnes dialoguant d'un sujet d'importance, comme je ne sais pas, la protection sociale, ne sont pas d'accord sur les chiffres, et se jettent des chiffres à la tête qui ne sont pas les mêmes, alors il y a un problème. Donc il faut bien produire des chiffres, disons, de référence. Alors partant de là, comment produire des chiffres de qualité? J'ai essayé de lister un certain nombre de critères de qualité auxquels les indicateurs économiques doivent souscrire. Il faut évidemment que ces indicateurs soient pertinents. À chaque fois, j'ai un exemple. Si vous prenez l'exemple de la mesure de l'inflation, la progression des prix, il faut que ça soit pertinent. Donc, par exemple, quand on mesure l'inflation en France, mais dans tous les autres pays, on tient compte de ce qu'on appelle les effets qualité. C'est-à-dire que si vous achetez un ordinateur le même prix entre aujourd'hui et demain, mais que cet ordinateur est beaucoup plus puissant et fait beaucoup plus de choses, alors, pour pouvoir parler de l'évolution des prix, il faut tenir compte de cet effet qualité. On pourra dire que le prix de l'ordinateur, d'une certaine façon, a baissé parce que pour la même quantité d'argent, on vous offrait quelque chose qui fait plus de choses. Il faut que les indicateurs soient pertinents. Ensuite, il y a une question de couverture. Lorsque vous intéressez aux indicateurs économiques, par exemple à l'emploi, on veut mesurer l'évolution de l'emploi en France. Et donc, il faut que l'appareil statistique soit à même de gérer la complexité et de l'ensemble des activités, de les couvrir toutes, ce qui est plus ou moins le cas. En tout cas, par exemple, les premières données d'emploi données en France sont faites à l'aide d'enquêtes qui couvrent un large champ de l'emploi, même le champ dit privé et marchand. Et pour avoir des statistiques plus complètes, par exemple, pour tenir compte de l'emploi non marchand, aujourd'hui, ça prend plus de temps. Donc, là encore, si on veut améliorer les statistiques, il faut essayer d'être le plus complet possible. Ensuite, il y a une question de disponibilité, parce que si je vous annonce aujourd'hui que la croissance du PIB en 2005 était de plus 1,9, vous allez me dire que c'est très intéressant d'être en 2008. Donc il faut qu'un institut statistique soit capable de produire le plus vite possible des indicateurs, mais évidemment il y a une espèce de bon équilibre à trouver, parce que plus vous donnez un chiffre vite, moins vous le donnez avec une source d'information complète, et plus ce chiffre sera fragile d'une part et risquera d'être révisé d'autre part. Et puis enfin, il y a une question plus générale de précision du chiffre. Quelle précision veut-on donner aux indicateurs économiques qu'on commente? Par exemple, aujourd'hui, l'estimation du taux de chômage en France est faite d'une enquête auprès d'un certain nombre de ménages. Et une enquête auprès d'un certain nombre de ménages, c'est un sondage. Donc il y a toujours un certain bruit statistique, parce qu'on n'interroge pas tous les ménages, mais juste un échantillon. Et donc le taux de chômage n'est connu en France qu'avec un certain degré de précision. Donc là, je dirais, on objective, disons, un certain nombre de qualités qu'il est souhaitable d'avoir lorsqu'on produit de l'information statistique, mais quand bien même on mettrait beaucoup de moyens pour obtenir la meilleure qualité possible sur ces indicateurs, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que la démocratie peut se contenter d'un état de fait où les indicateurs seraient de très bonne qualité? La réponse, évidemment, non. Évidemment non, parce que quand bien même vous produisez des indicateurs économiques de qualité dans une démocratie, encore faut-il qu'ils soient compris. Et de ce point de vue-là, il y a tout un effort à faire, disons, de pédagogie et de construction, disons, de dialogue entre les producteurs des chiffres, les statisticiens, les spécialistes de ces chiffres économiques, donc les économistes pour faire simple, mais également leurs interlocuteurs, que ce soit les médias, mais aussi plus généralement les citoyens, pour que ces chiffres soient compris, ne soient pas mal utilisés. Et ça, c'est, à mon sens, la partie, finalement, peut-être la plus difficile à construire. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire que les acteurs puissent s'approprier correctement ces indicateurs? Je crois que ça veut dire d'abord qu'il faut essayer de faire comprendre le mieux possible les concepts qui sont utilisés pour construire ces indicateurs. Je prends un exemple. L'INSEE annonce que le taux de pauvreté en France est de 13% du nombre de ménages. Qu'est-ce que ça veut dire qu'avoir 13% de ménages pauvres en France? Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Il faut retourner le concept, c'est-à-dire savoir comment ça se mesure. Et ça se mesure, alors je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais disons, le taux de pauvreté lui-même est défini en partant du niveau de vie moyen et en prenant 60% de ce niveau de vie moyen. Si l'interlocuteur à qui vous assénez 13% des ménages sont pauvres en France, sans lui expliquer comment ce chiffre est construit, alors il risque de l'utiliser sans vraiment en comprendre les tenants et les aboutissants et ne pas savoir jusqu'à quel point ce chiffre est fiable, peut-être discuté. Donc il faut comprendre les concepts. Ensuite, il faut évidemment savoir les interpréter, ces chiffres, parce que ces chiffres, il faut, lorsque vous balancez un chiffre comme ça dans la nature, ça n'est pas forcément parlant. Si on vous dit que la croissance du troisième trimestre 2008 était de plus 0 dans l'absolu, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, personne n'en sait rien. Il faut essayer d'avoir des références, d'avoir des ordres de grandeur en tête. Lorsque l'INSEE annonce qu'il publie une enquête sur l'indicateur résumé des ménages, appelle le moral des ménages et qu'on annonce que le moral des ménages est à -48. Ça ne veut rien dire en soi. Donc il faut savoir, il faut livrer au public non seulement le chiffre et son concept, mais aussi la façon dont on peut l'interpréter. Et puis enfin, je crois, surtout lorsqu'il s'agit de statistiques macroéconomiques, qu'il faut essayer de faire le plus possible, là je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire, même si je cherche à en faire, on a déjà fait, à faire le pont entre ce que signifie une statistique macroéconomique globale, c'est-à-dire une moyenne sur le pays, et comment elle va être reçue par un individu, par un citoyen, qui va immédiatement faire le rapport avec sa propre situation. Et donc faire le pont entre une situation individuelle et un chiffre collectif moyen, ça c'est un travail, à mon avis, très important, qui demande beaucoup d'efforts, et il y en a encore beaucoup, beaucoup à faire. Je crois que je vais m'arrêter là pour l'instant. La discussion.
Merci Fabrice de nous avoir présenté en fait beaucoup de défis. Je vais maintenant donner la parole à Jacques Anas. Jacques est directeur pour les indicateurs économiques et le système d'information de CEE Rexecode. CEE Rexecode, c'est un institut de conjoncture qui est financé assez largement par des entreprises, je crois qu'on peut le dire. Et donc c'est un très gros consommateur des chiffres de l'INSEE, mais qui a aussi une expertise propre. Donc Jacques, comment vous voyez la question?
Merci. Donc, après le producteur, l'un des consommateurs de statistiques, alors, comme on l'a dit, il y a énormément de diversité dans l'utilisation des statistiques. On va y revenir peut-être tout à l'heure. Et grosso modo, il y aurait, donc, je dirais, le gouvernement et toutes les autorités publiques, d'une part. D'autre part, il y a évidemment les citoyens qui ont besoin d'informations. Et puis, il y a les entreprises. Bon. les entreprises, c'est assez vital pour elles, parce qu'elles doivent prendre un tas de décisions. Alors je veux d'abord revenir un petit peu compléter ce qu'a dit Fabrice sur peut-être la notion d'indicateur économique. Alors je pense pas qu'il y ait une définition très unique et très claire sur cette notion, mais je vais essayer quand même de la caractériser, enfin, d'après l'expérience qu'on a nous en tant qu'entreprise. Alors, un indicateur économique, d'abord il a une dimension surtout temporelle, pas que temporelle d'ailleurs, parce qu'on peut très bien à un moment donné essayer d'avoir des indicateurs et les comparer entre pays ou entre entreprises, mais c'est quand même la dimension temporelle qui aujourd'hui domine, et on aime bien voir l'évolution des indicateurs, voir s'ils progressent, voir si on progresse mieux que les autres, etc. etc. Donc l'idée de suivre dans le temps, alors suivre dans le temps un phénomène, ça demande quand même beaucoup de propriétés importantes, notamment la question de la comparabilité, ça c'est fondamental. Alors la comparabilité dans le temps, évidemment, les indicateurs doivent être comparables dans le temps, et ça pose toute la question de la stabilité des techniques, mais aussi de l'amélioration des méthodologies, et aussi de la désaisonnalisation. Un aspect technique, mais qui permet justement de comparer dans le temps les phénomènes. Et alors c'est très important d'avoir des indicateurs robustes. Alors, dans le temps, mais aussi dans l'espace. Parce que aujourd'hui, comparer les performances, c'est se comparer par rapport aux autres pays. La dimension internationale est très importante. Et donc, comme le disait Fabrice, eh bien, il faut qu'on ait les mêmes concepts, les mêmes mesures, les mêmes calages pour pouvoir comparer. Ça, c'est la première caractéristique. Deuxième caractéristique, c'est un indicateur. Donc, comme son nom l'indique, ça indique quelque chose. Et pourquoi ça indique quelque chose? Parce qu'on veut se débarrasser des deux choses assez gênantes. Quand on veut comparer, par exemple, dans le temps, eh bien, on le verra tout à l'heure, on est confronté à des problèmes. Par exemple, la révision des données. Les données sont provisoires. Deuxièmement, il y a du bruit. Alors, comment se débarrasser du bruit et de la révision pour pouvoir comprendre vraiment les phénomènes, je dirais, sous-jacents? On utilise souvent des indicateurs sous-jacents, l'inflation, la croissance, donc on y reviendra tout à l'heure. Troisième chose, je voudrais dire, c'est que indicateur économique, ce n'est pas information économique. Information économique, c'est vraiment très large. Ici, on est quand même sur quelque chose qui est plus travaillé que l'information générale que produit, par exemple, l'Institut statistique. Alors, on parlera, par exemple, d'indicateurs de développement. On parlera d'indicateurs de compétitivité ou d'indicateurs de développement durable. Les principaux indicateurs économiques sont produits par l'OCDE. Eurostat s'est aussi lancé dans l'aventure d'avoir des indicateurs principaux économiques. Il y a aussi des indicateurs de performance. On voit bien qu'à chaque fois, on a un thème, et on essaye pour ce thème-là d'avoir un ensemble d'indicateurs qui vont être pertinents, qui vont nous permettre de bien saisir quelle est l'évolution. Enfin, je ne reviendrai pas à ce qu'a dit Fabrice sur les critères. Effectivement, il y a des critères de qualité que Fabrice a très bien énumérés. Qui sont importants. Alors, maintenant, une fois qu'on a caractérisé la notion d'indicateur, il faut bien voir les objectifs. Alors, les objectifs, c'est évidemment de faire l'analyse conjoncturelle, c'est mesurer, avoir des indicateurs pour analyser, et analyser pour décider. Il ne faut jamais oublier qu'à la fin, il y a des décisions. Le gouvernement va prendre des décisions face à une situation, par exemple, de crise, va prendre des décisions. Les entreprises aussi, face à des situations de dégradation, comme aujourd'hui, doit prendre des décisions en matière d'investissement, en matière de trésorerie, etc. Alors, j'en viens à la notion de cycle économique, parce que quand même, une des grandes caractéristiques de nos sociétés, c'est d'être encore surtout cyclique. Le cycle n'est pas mort, comme le pensaient certains il y a 10 ans. Et avec la mondialisation, des échanges, les phénomènes de bulles et la contagion, on voit qu'aujourd'hui, il y a un intérêt fort d'analyser très rapidement quand est-ce qu'il y a des retournements cycliques, des points de retournement, comme on dit, et pour pouvoir agir très vite. Donc, les indicateurs sont beaucoup orientés dans cette question. Alors, je dois dire aussi, on l'a pas dit, je vais être rapide, Internet joue un rôle très important aujourd'hui. L'information se diffuse à une vitesse grand V. Donc, on voit qu'il y a la course à l'information, comme disait Fabrice, vous avez le calendrier des indicateurs, on sait à telle heure un certain indicateur, tout le monde les consulter dans l'heure et prendre donc des décisions en cette fonction. Voilà, je reviendrai par la suite sur les difficultés, mais voilà, je vais un petit peu cadrer par rapport à ça.
Alors, je voudrais mentionner, souligner deux points que vous avez évoqués. Premièrement, le problème de la comparabilité dans le temps, parce qu'il pose tout de suite une contradiction majeure. Parce que pour que la statistique soit bonne, il faut qu'elle soit faite de la même manière dans le temps. Le problème, c'est que la réalité, elle évolue. On a une société qui cherche à savoir d'autres choses. Et donc, soit on corrige l'indicateur pour qu'il reflète ce changement, mais dans ce cas-là, on n'a plus la continuité, soit l'indicateur s'éloigne de la réalité. Et ça, c'est un dilemme qu'ont sans arrêt les statisticiens. Un deuxième point, je voulais simplement illustrer, vous avez dit, on prend des décisions sur les chiffres. Une décision qui remonte un peu maintenant, et que vous connaissez bien, qui a été la décision de dissoudre l'Assemblée nationale en 1997, qui a été prise sur une anticipation erronée de croissance à partir de chiffres qui ont été eux-mêmes fortement révisés. Et donc, le président craignait que la situation économique se dégrade assez fortement, et donc qu'on n'atteigne pas les objectifs qui permettraient à la France d'entrer dans l'euro. Et donc, on a dissous. Et donc, on voit bien que le chiffre et la décision, il y a un lien, et qu'un mauvais chiffre peut être une décision que certains peuvent trouver ensuite erronée. Alors, troisième intervenant, c'est Jacques Fayol. Jacques, vous êtes directeur adjoint des études du groupe Alpha. Le groupe Alpha, c'est un groupe qui travaille pour les salariés, pour le compte des organisations syndicales, pour évaluer la situation des entreprises. Et vous avez été auparavant chercheur à l'IRES, à l'Institut de recherche économique et sociale, mais aussi à l'OCDE. Vous travaillez depuis longtemps avec les indicateurs. Comment est-ce que vous les voyez, vous les consultez, vous les maniez, vous les évaluez?
L'honnêteté commence par dire que je viens aussi du lycée. Je suis marqué par cette maison qui reste ma maison mère d'origine. Même si je suis, je pense, capable de voir les enjeux de la statistique avec un certain recul. J'ai été, pour ma part, très modestement producteur de chiffres lorsque j'ai été responsable d'enquête de conjoncture à l'INSEE il y a longtemps, et après j'ai été plus en des positions d'utilisateur, d'économiste, d'utilisateur des chiffres produits par mes collègues. Les économistes pouvant être très pervers à cet égard, même au sein de l'INSEE, lorsqu'ils ne sont pas contents des chiffres des statisticiens, où ces chiffres sont inexistants, ils peuvent d'ailleurs les inventer par des modèles. C'est un problème compliqué, la relation entre les deux composantes. J'ajoute d'ailleurs, pour juste un bémol sur ce que vient de dire M. Vittori, quand on revient sur l'expérience 97, les raisons de la dissolution, ce n'est pas seulement des problèmes d'observation, c'est aussi des problèmes de prévision. Ça fait partie de la difficulté du débat que de distinguer, ce n'est pas facile, entre les erreurs de prévision et les erreurs d'observation de la réalité économique. Alors, j'en viens à quelques idées sur plus général. Le rapport dont parlaient nos deux députés, M. Mariton et Muet, s'appelle Mesurer pour comprendre. Je disais tout à l'heure à M. Mariton qu'on pouvait, tout en respectant ce rapport qualité, inverser la proposition en disant comprendre pour mesurer. Le travail des statisticiens n'est pas au départ un travail de chiffrage. C'est un travail qui commence par établir des grilles descriptives, des nomenclatures dans le langage technique pour pouvoir ensuite mesurer. Il faut bien voir qu'une bonne partie le travail du statisticien est conditionné par ces grilles descriptives qui sont construites au départ et qui dépendent, ne sont pas construites dans le pur esprit des statisticiens, mais qui sont aussi influencées par tout un tas de conventions sociales. Alors ça veut dire que sous la question des indicateurs, il y a une question sous-jacente qui est celle du système d'information qui donne naissance à ces indicateurs. Les indicateurs, qu'ils soient conjoncturels, structurels ou autre chose, ne sont jamais que la partie émergé de l'iceberg continu que constitue le système d'information. Dans les dernières années, personnellement, à travers différentes expériences, notamment ma participation à différents titres aux travaux d'une instance qu'on appelle le Conseil national de l'information statistique, qui est une instance consultative sur les projets statistiques en France, j'ai été frappé par la récurrence d'un certain nombre de phénomènes dans différents domaines. On a vu apparaître plusieurs fois au cours des dernières années le même scénario, pour aller très vite, dont les pièces d'ailleurs sont reprises dans le rapport de M. Muet et Mariton, sur le thème de la pauvreté et les inégalités. Fabrice Langlard en a parlé. Sur le thème de l'emploi, sur le thème du pouvoir d'achat, on a vu le film suivant. Au départ, un constat de divorce entre la perception publique
et les chiffres présentés comme assurés par les statisticiens. Et c'est une question troublante pour les statisticiens, quel crédit accorder à la subjectivité de l'opinion publique lorsqu'elle met d'une manière ou d'une autre en cause les chiffres avancés. Deuxième moment du scénario, un réflexe de forteresse assiégée de la part de la corporation statistique. Comme j'en viens, je dirais, je le dis avec amitié, mais effectivement un réflexe de forteresse assiégée en disant attention, vos chiffres sont bons, il n'y a rien à toucher. Puis troisième stade, tout le monde réfléchit, on travaille, il y a des rapports utiles, et il y a un travail de fond qui s'engage avec l'apport d'idées nouvelles qui relativisent les chiffres existants et qui font des propositions. Sur pouvoir d'achat, on y reviendra sans doute. C'est ce qui s'est passé. Néanmoins, la récurrence de ce genre d'épisode amène à se demander si on n'est pas aujourd'hui face à une mise en cause structurelle de nos systèmes d'information statistique, ça ne marche pas seulement pour la France, tels qu'ils se sont constitués historiquement. Et M. Vittori a rappelé leur naissance dans les circonstances de l'après-guerre sous l'influence de la culture keynésienne. Alors je pense pour ma part qu'il y a un ensemble de facteurs assez généraux qui poussent à la mise en cause de ces systèmes d'information. J'en cite quelques-uns. Je finirai par le dernier, qui est d'actualité. Le premier, c'est la mondialisation, dont on sait qu'elle produit des effets dans tous les domaines. Mais lorsque vous avez, par exemple, des entreprises multinationales structurées productivement à l'échelle internationale, comment vous faites pour répartir la valeur ajoutée qu'elles produisent entre les différents pays? Je peux vous assurer que ça obéit à un certain nombre de conventions qui ne sont pas simples. Lorsque vous avez une économie qui devient beaucoup plus une économie de la qualité des services, eh bien la mesure, la distinction tout à fait cruciale pour les statisticiens entre le volume des activités et leur prix devient quelque chose de compliqué dans une économie qui est beaucoup plus axée sur le service, la qualité du service, etc. M. Mariton qui vient de faire un rapport également remarqué sur la jungle tarifaire de la SNCF, peut témoigner qu'effectivement, dans une activité aussi servicielle que celle-ci, ben, ce n'est pas facile de mesurer les prix. Et quand l'usager, face à l'offre complexe de la SNCF, est un peu ébahi de la difficulté à s'y retrouver, on peut se dire qu'aussi les statisticiens de l'INSEE doivent être confrontés à des difficultés analogues lorsqu'ils cherchent à mettre le bon prix de la SNCF, le transfert ferroviaire, dans l'indice des prix. Troisième facteur, Jacques Annas en a parlé, c'est le rôle d'Internet. Avec Internet, vous avez une diversification des sources et des usages de l'information statistique. On peut trouver des chiffres sur tout, mais sans être obligatoirement assuré de leur mode de construction et de leur validation. Donc les ressources mises à disposition des utilisateurs de chiffres par Internet sont énormes. Mais en même temps, elle pose un problème majeur, comment ces chiffres-là sont validés? Que devient la validation statistique dans un monde où ce qu'on appelle le data mining, c'est-à-dire la recherche de sources d'informations statistiques, est considérablement enrichie par l'apport d'Internet. Dernier élément, je le citerai là, les évolutions financières auxquelles nous sommes confrontés dans la crise, mais évidemment précédées par tout un ensemble d'évolutions structurelles, soulèvent un ensemble, je dirais, de problèmes tout à fait fondamentaux. Dans la crise que nous vivons aujourd'hui, il y a un élément de crise informationnelle, pourrait-on dire. Il y a une profonde confusion sur la manière dont nous mesurons la valeur des activités économiques. Tous les débats sur ce qu'on appelle la fair value, la juste valeur pour les activités financières, témoignent de ceci. Moi, je suis d'ailleurs frappé du fait qu'aujourd'hui, ça n'aurait pas été le cas il y a 20 ou 30 ans, les comptables nationaux sont très largement absents de ce débat qui est posé de manière cruciale. Alors que les comptables nationaux avaient été à un certain moment, je dirais, les normalisateurs de la bonne façon de mesurer la valeur des activités économiques qui avaient influencé les comptabilités privées. Et de ce point de vue, je pense qu'effectivement, nous sommes dans nos systèmes d'information au sein des économies avancées, dans une période, je dirais, de confusion sur les concepts qui permettent de construire nos indicateurs. Alors, je me permettrai de citer à cet égard, parce que je lui ai envoyé un message pour lui dire que c'était bien que l'INSEE, cette fois-ci, prenne, je dirais, le taureau par les cornes. Dans le journal de M. Vittori, il y a à peu près un mois, Jean-Philippe Coty, ce directeur général de l'INSEE, s'est exprimé de la manière suivante, à une question qui lui était posée. Les économistes ont-ils bien joué leur rôle d'alerte sur les risques de déclenchement de cette crise financière? Sa réponse, non, nous n'avons pas très bien joué notre rôle. À notre décharge, nous avons manqué d'informations microéconomiques sur la sphère financière. Nous avons beaucoup de connaissances sur la sphère réelle, mais moins sur les intermédiaires financiers. Une partie de ces informations ne se trouvait pas dans les statistiques ou les comptes, elles étaient hors bilan et rendaient difficile l'estimation du taux de levier des intermédiaires financiers et de leur fragilité. Les économistes ont passé plusieurs années à se demander où étaient logés les risques et ils ont eu du mal à les appréhender. Ce qui est tout à fait frappant, en effet, dans le déroulement de cette crise, c'est qu'il y a eu un certain nombre d'analyses proposées par les économistes, pour en citer en France, en Europe, aux États-Unis, qui ont averti sur les risques macroéconomiques que prenait un certain nombre d'évolutions financières. On a été profondément démunis jusqu'au dernier moment quant à la capacité de disposer d'indicateurs pertinents pour apprécier en temps réel les péripéties de cette crise.
Merci Jackie. Maintenant, nous continuons le long de la chaîne, et donc nous allons vers le politique, vers deux hommes qu'a priori tout sépare, puisque l'un est élu de la Drôme et l'autre du Rhône. L'un est UMP et l'autre est PS, mais malgré ces différences, ils ont fait un rapport ensemble qui a été évoqué à l'instant, donc mesuré pour comprendre, un rapport de l'Assemblée nationale qui a été publié en avril dernier, qui faisait un certain nombre de propositions pour tenter d'améliorer l'appareillage statistique et la connaissance de l'économie. Donc nous allons commencer par vous, Hervé, du côté UMP. Comment est-ce que vous envisagez cette question?
Je vais rebondir tout de suite sur la crise informationnelle. D'abord pour constater que dans la situation actuelle, il y a un travail de vulgarisation économique fait auprès des citoyens d'une ampleur que seule une crise peut provoquer. Le deuxième élément, toujours sur la crise informationnelle, c'est un peu loin du sujet, mais je reprends bien sur le propos, ça me paraît important et ça ramènera à notre sujet, sur le fait que probablement ce qui a joué, ce que je comprends comme un des éléments, ce sont les économies que les prêteurs ont voulu faire sur le rassemblement de l'information, l'évaluation d'emprunteurs, et donc on a bien là un problème informationnel. Et puis, dans ce qu'évoquait le propos de M. Cotis, en effet, de nouveau un problème informationnel que nous avons ressenti à la Commission des Finances, par exemple, dans les auditions pratiquées depuis un an, parce que jusqu'à cet automne, le moins qu'on puisse dire est que les informations que nous avions rassemblées n'étaient ni précises, ni très fidèles, ni très renseignantes. Je crois qu'on peut à peu près dire des choses comme ça. Bon. Je reviens au sujet. Moi, je ne suis pas statisticien ni économiste, je me contente d'être député. Mais pourquoi ce travail avec Pierre-Alain Muet et un nombre de collègues? Bon, parce que comme vous l'avez dit, on peut se crêper le chignon sur les mesures de politique économique à prendre, mais pour que ce soit amusant et utile de se crêper le chignon, encore faut-il savoir à peu près ce dont on parle. Sinon, c'est combat de nègre dans un tunnel. Déjà, le fait de dire ça contrarie un certain nombre d'intuitions publiques et politiques, du style on fait dire aux chiffres ce qu'on veut. Quand on sort le moindre chiffre vis-à-vis, enfin dans un débat public, avec l'opinion, on rencontre beaucoup de perplexité et de doute. Donc, avancer un raisonnement, discuter, considérer qu'on doit partir d'un certain nombre de bases solides, au fond, il y a un paquet de gens qui douteront même de l'utilité de cela. A l'inverse, évidemment, les citoyens ne veulent pas, et nous ne voulons pas, en tant que politique, que les chiffres dictent, en tant que tels, des choix. Ils n'ont pas à dicter, ils peuvent éclairer les choix, mais ils n'ont pas à les dicter. Bon, entre les deux, il faut trouver un chemin. Dans une situation où on peut tout de même constater parfois une réelle fragilité de l'outil quantitatif. Je suis à la Commission des Finances depuis un certain nombre d'années, J'ai par exemple suivi depuis 2 ou 3 ans, de manière précise, parce qu'on a mis en place un petit groupe de travail là-dessus, une commission même, l'évolution de la fiscalité pétrolière. Combien est-ce que ça rapporte de plus en TIPP, en moins en TVA? On a fait des progrès depuis 2 ans. Mais le brouillard absolu dans lequel on se mouvait au début de ce travail était assez consternant, simplement pour évaluer les outils dont disposait le gouvernement lui-même pour tirer un son de conséquence, expliquer des choses, prendre un son de décision. Je veux juste dire en tant que politique, alors peut-être que les scientifiques trouveront que je dis des choses un peu curieuses, mais que dans bien des cas, l'outil quantitatif est fragile, peut-être que ça ne peut pas être différemment de cela. Et mon intuition, en tout cas sur le plan budgétaire, est que souvent les choses ne tombent pas trop à côté du sujet, parce qu'on travaille beaucoup sur l'inertie. Je m'approche progressivement du sujet. Le sujet, donc la fragilité, en même temps, je pars du principe que les chiffres sont utiles, et qu'il y a bien alors une question sur la place des indicateurs économiques en démocratie. Il y a évidemment un débat sur leur définition. Cela a été dit. Les questions qu'on se pose, la grille qu'on établit, c'est déjà répondre à une bonne partie de la question. Je pense qu'on peut admettre, je peux admettre en tant qu'élu de la nation, que cette définition repose sur un certain nombre de conventions, comme toute définition, que naturellement, vous le disiez, M. Vittori, tout ça est appelé à évoluer. Mais en même temps, et c'est un point que l'on a entendu à l'occasion des auditions, nous posions la question de l'ampleur de l'évolution. Et on voit bien à la fois qu'il faut que les choses évoluent parce que les structures de consommation évoluent, parce que les questions sont posées différemment, mais qu'en même temps, il faut peut-être faire attention de ne pas trop charger la barre de l'évolution, sauf à demander aux indicateurs de décrire des choses très éloignées de ce qu'on leur demandait de décrire au départ. On peut contester la définition du PIB. On n'a jamais prétendu non plus que le PIB décrivait la totalité de la vie. Il y a sans doute des éléments d'évolution sociale et de développement durable qu'on ne trouve pas dans le PIB, et on peut chercher à charger la barque. Il y a un degré jusqu'auquel c'est raisonnable et un degré à partir duquel on demanderait au PIB de trop décrire. Donc ne pas trop charger, les questions de développement durable, les questions de bien-être à cet égard sont intéressantes, de même que le débat que nous avons eu sur les dépenses contraintes. Parce qu'on voit bien d'ailleurs qu'à un moment où
on reviendra au
point où, à force de parler de dépenses contraintes, qui est l'éclairage sur lequel l'opinion a été concentré, qu'on finit par décrire beaucoup de choses, sauf les dépenses essentielles. Dans la définition, je vais aussi citer rapidement la question des besoins d'indicateurs locaux. La décentralisation, la particularité d'un seul territoire peut faire apparaître un besoin d'indicateurs locaux auquel ils ont aujourd'hui mal répondu. La définition, l'usage. L'usage, c'est de doser le nombre d'indicateurs que l'on cherche à utiliser, dans le débat public et dans le débat politique, ni trop ni trop peu. Alors Foucault nous avait donné une idée qui était intéressante, il est 3. 3 parce que c'est un nombre rituel, mais 3 parce qu'il y a ce qui permet de plaider dans un sens, ce qui permet de plaider dans un autre sens, et ce qui permet d'ouvrir le débat. C'est en gros comme ça qu'il voulait expliquer. Bon, trop peu, trop vite ou trop lentement, ce qui a été évoqué tout à l'heure. Deuxièmement, ne pas trop solliciter l'indicateur dans le débat public. Toute la question de la présentation par Mme Lagarde du chiffre de croissance du troisième trimestre à 0,14, le deuxième chiffre après la virgule, n'a aucun sens. Chacun ici sait cela. La sursollicitation du chiffre est tout de même de nature à lui enlever du crédit. Et si le sujet considérait que ça vaut tout de même la peine de débattre à partir de données respectées, il faut qu'on soit attentif à ne pas sursolliciter les données. Ne pas les martyriser non plus, c'est la question du pouvoir d'achat. On a beaucoup dit sur la baisse du pouvoir d'achat en 2007, et on est évidemment très embêté parce que en 2008, c'est pas zéro, mais c'est moins bien qu'en 2007. Alors comment est-ce qu'on arrive à décrire la situation de 2007 par rapport à la situation de 2008, qui était moins mauvaise, de la situation de 2008 par rapport à la situation de 2007 qui était moins mauvaise que ce qui a été souvent dit. Définition, l'usage, le crédit de l'indicateur lui-même, ça ramène à la question, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, du positionnement de l'INSEE et de l'indépendance de l'INSEE. Je veux juste terminer en disant qu'il faut tout de même bien mesurer combien le débat démocratique est un débat fondamentalement littéraire. La classe politique est tout de même largement une classe politique littéraire. Les journalistes sont tout de même largement des journalistes littéraires. Avec un collègue qui a le même péché originel que moi, François Loos, on participe l'un et l'autre au groupe de travail autour du G20, donc sur le groupe de travail Assemblée-Sénat sur la crise financière et ses conséquences économiques. On a tout de même été assez ahuri de voir que le document conjoint que nous produisions, Assemblée-Sénat, ne comportait, si ce n'est aucun chiffre, en tout cas très 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 peu. C'est-à-dire qu'on fait des pages et des pages sur l'analyse de la situation financière, de la crise économique, il n'y a pas un chiffre. C'est juste une constatation que nous sommes permis de faire. Voilà, je comprends bien que tout n'est pas dans le chiffre, on fait un sort de proposition systémique, etc. Et si tout n'est pas dans le chiffre, un peu d'éclairage par le chiffre et par l'indicateur n'est pas nécessairement inutile. La suite dans le débat.
Si juste un élément d'appréciation sur le 0,14% qu'a lâché Christine Lagarde la semaine dernière. Le deuxième chiffre après la virgule signifierait que l'INSEE serait capable de déterminer une variation de 50 millions d'euros. Hein, c'est-à-dire un gros lot de l'euro million, l'INSEE serait capable de voir, ce qui est évidemment totalement faux. Et c'est heureux parce que pour que ça soit visible, il faudrait dépenser des fortunes.